Bonsoir à tous.
Bonsoir. Merci d'être venu ce soir pour une table ronde que certains de nos intervenants attendent depuis à peu près 10 ans maintenant. Une table ronde sur Arthur qui s'intitule « Un cycle réinterprété ». Je ne parle pas du tout, bien sûr, d'Anne Fakhoury. Nous avons donc 4 invités. Nous allons pouvoir parler du mythe du roi Arthur qui est quand même fondamental et essentiel en fantasy. Et nos 4 invités ont travaillé sur ce mythe et justement l'ont réinterprété eux-mêmes, et on va pouvoir discuter des différentes manières qu'ils ont eues de voir ce mythe. Alors, j'en parlais justement, notre première invitée c'est Anne Fakhoury. Anne Fakhoury qui a quand même une maîtrise sur les chevaliers de la table ronde, mais qui a aussi fait des romans comme Le Clair Voyage ou La Brume des Jours, ou bien encore Narcogénèse, et qui a une nouvelle justement sur ces chevaliers de la table ronde qui va apparaître d'ici quelques mois dans l'anthologie d'Avalon à Brocéliande. C'est une anthologie dirigée par Lucie Chenu, donc à surveiller dans les prochains mois. Juste à ses côtés, nous avons le plaisir d'avoir Claudine Glot. Claudine Glot, elle est présidente du Centre de l'imaginaire arthurien, donc autant dire si elle connaît le sujet, et en plus elle a écrit des romans sur le sujet, notamment Lancelot ou L'âge d'or du royaume. On va pouvoir en discuter avec elle. Au bout, Alexis Briclot qui a travaillé aussi sur Arthur et le mythe arthurien, notamment dans Merlin. Et il va nous discuter, et c'est intéressant de l'avoir parce que c'est le côté visuel qui va nous intéresser. On a des auteurs, ils vont reprendre, ils vont travailler sur ce mythe-là. Lui, on va lui demander un petit peu visuellement comment est-ce qu'il s'est approprié le mythe, parce qu'évidemment, on n'a pas de photo d'Arthur, ce serait trop simple. Et puis, dernier invité avec nous, Fabien Clavel, qui a notamment fait L'apprenti de Merlin. Je dis notamment parce que sa bibliographie est longue, et on peut citer Le châtiment des flèches, ou bien encore Le miroir aux vampires, récemment. On va commencer avec Anne. Première question un petit peu, d'abord comment est-ce que tu as rencontré le mythe d'Arthur et pourquoi est-ce qu'il a été important pour toi ?
Alors la première fois que j'ai lu quelque chose sur les chevaliers de la table ronde, c'était Steinbeck qui a répondu à une commande et qui a écrit un livre qui est épuisé depuis maintenant 20 ans, qui s'appelle Le roi Arthur et ses preux chevaliers, qui a une interprétation assez comique finalement, assez drôle, qui a accentué certains traits de Lancelot, de Galéot, de personnages un peu moins connus, donc comme Galéot du mythe. Et voilà. Et du coup, je l'ai lu très jeune, et ça m'est resté jusqu'au moment où j'ai dû choisir une spécialité en fac, et où j'ai choisi les chevaliers de la table ronde.
Et à ce moment-là, au moment où tu choisis cette spécialité, pourquoi est-ce que tu choisis justement ce mythe, et qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui fait écho en toi pour que d'un seul coup tu te dises « j'ai plutôt orienté ma maîtrise là-dessus » ?
Alors, à l'origine, c'était vraiment le personnage de Lancelot, pas du tout parce que c'est le chevalier idéal, on sait qu'il ne l'est pas de toute façon, mais pour une reconnaissance de la dualité en fait qu'on trouve chez Lancelot. Et puis mon directeur de mémoire, Philippe Ménard, m'a proposé un sujet qui était l'entrelacement des aventures, et là j'ai quitté un petit peu cette figure qui finalement pour moi était enfantine de Lancelot pour m'intéresser vraiment à cette technique littéraire et voir émerger le roman moderne avec donc cet entrelacement, un chevalier part en aventure, puis un autre, il se retrouve évidemment pendant une fête religieuse, et ainsi de suite, et de voir vraiment émerger ce roman.
D'accord. Même question pour Fabien. Tu as travaillé donc sur ce mythe d'Arthur et ce cycle avec l'apprenti de Merlin. D'abord, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler justement sur le mythe ?
Ça va pas être très sexy, mais en fait, c'est le directeur de collection, Xavier Mauméjean, qui m'a contacté et qui m'a demandé si je serais intéressé pour faire un roman sur l'apprenti de Merlin. Et ça m'a intéressé bien sûr tout de suite. Et ma seule condition en fait pour accepter, c'était de transformer l'apprenti qui était masculin à l'époque en apprenti féminine, parce qu'il me semblait que ça collait plus au mythe et que c'était plus intéressant, notamment avec les figures de Morgane et de Viviane. Voilà. Quant à moi, mon premier contact avec les légendes arthuriennes, qui a fait que j'ai accepté aussi parce que ça fait partie des histoires qui me touchent. Ça a été, c'était en colonie de vacances, je crois, ou en centre aéré. On était petits hein, à l'époque, et ils nous avaient passé Excalibur. Et à mon avis, on était un peu petits pour regarder ça. Donc ça m'a quand même beaucoup marqué, notamment la scène où de transformation de Gorlois en Uther, enfin d'Uther en Gorlois, excusez-moi. Désolé, le viol, enfin le, voilà, l'espèce de viol en armure qui m'a laissé une impression assez forte. Et la fin surtout avec le paysage, le soleil rouge, enfin tout cet aspect onirique, le père et le fils qui s'entretuent. Donc ça m'a laissé vraiment des impressions très fortes. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai faite après avoir accepté de faire ça, ça a été de revoir Excalibur. Et ça marche toujours.
Ça marche toujours.
Ah ouais, c'est super.
Même question un petit peu pour Alexis. Comment est-ce que toi tu as rencontré le mythe et qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dessus ?
Là tout de suite, en fait, de prime abord, j'ai envie de citer à nouveau Anne et de dire que le mythe arthurien, Arthur et Merlin, c'est de la merde. Je vais m'expliquer un petit peu plus. Tu l'as dit, j'ai entendu. Mais je vais m'expliquer un petit peu plus après. Moi, je dirais que ma première... j'ai travaillé plusieurs fois visuellement sur des projets liés au mythe arthurien, que ce soit sur le beau livre illustré Merlin, sur... les légendes de la table ronde en bande dessinée, mais malgré tout, c'est pas un sujet dans lequel je suis tombé petit dedans. C'est pas au cœur de mes sujets favoris. J'aime beaucoup en fait la potentialité, tout ce qu'il y a à faire autour de ça, mais je ne respire pas qu'à travers ça. Et là, je te dirais en fait, pour répondre à ta question, c'est peut-être Star Wars de façon détournée, ma première introduction au mythe arthurien. En fait, où en creusant après, on retrouve le même schéma. Mais disons, encore une fois, voilà, je me souviens pas d'avoir eu des lectures gamins en fait qui m'ont vraiment fait tomber amoureux du mythe ou vraiment curieux. Star Wars a eu un bien plus grand impact sur moi plus tard. Et après, voilà, c'est en faisant des recoupements. Excalibur aussi m'avait marqué, mais je pense que je l'ai vu beaucoup plus tard en fait. Voilà.
Claudine Glow, est-ce qu'on peut dire que Star Wars est une réinterprétation du mythe d'Arthur ?
Oui, de toute façon, on le sait très bien, et ce n'est pas une interprétation de hasard. On sait aussi que ça a été travaillé pour être une réinterprétation, mais de toute façon, c'est bien comme ça que se marque la force des grands mythes ou la force des grandes légendes. C'est que, d'une façon ou d'une autre, on ne peut pas s'en passer. Et que chaque époque les travestit, les ridiculise ou les monte en épingle ou les magnifie, mais elles reviennent, et on a presque l'impression de dire elles reviennent malgré nous. Moi je vois autour, bon, on parlait du centre arthurien tout à l'heure, on voit des gens qui a priori ne sont mais pas du tout orientés dans ce sens là bon, vous parliez de vos expériences personnelles, mais vous êtes très proche de la légende. Moi j'en vois qui arrivent totalement éloignés quand on les rencontre et qui au fond d'eux-mêmes ont ce désir, cet attrait ou ce besoin de cette légende là
Faites-nous un petit point historique. Vous dites que toutes les époques, on a eu une réinterprétation. Ça veut dire que à chaque siècle, on trouve des réécritures de Merlin.
Dès le début, la première écriture est déjà, je vais dire une phrase paradoxale, la première écriture est une réécriture. Quand il n'y a pas une œuvre de référence, que ce soit, on a le même cas d'ailleurs pour Tristan et Iseult, on peut toujours chercher l'œuvre initiale à partir de laquelle toutes les autres vont dériver. Même ce texte qu'on considère comme fondateur, comme l'histoire des rois de Bretagne, qui est à prétention historique, mais qui est totalement fictionné, totalement irrationnel et empreint de merveilleux et ce que nous appelons aujourd'hui de fantastique, eh bien même ça, c'est une œuvre interprétée à partir, bon, on sait à peu près à partir de tout un corpus oral et d'une petite quantité de textes latins, chroniques ou vitsins légèrement antérieurs, mais dès ce moment-là, on est dans quelque chose qui va sans arrêt se réécrire, se réinterpréter. Et ça se réécrit et ça se réinterprète d'autant plus que c'est un corpus tellement énorme, c'est une quantité tellement immense de choses que chaque auteur va pouvoir, en y mettant de lui-même, de son temps, de l'idéologie de son temps, parfois de la politique. Je préfère parler de la nécessité politique du roi Arthur que de l'historicité du roi Arthur. Parce que l'historicité, plus on la cherche, et moins on la trouve.
Quelle est la force de ce mythe ? Peut-être que c'est une question pour toi, Anne. Qu'est-ce qui fait que ce mythe du roi Arthur perdure et a traversé les siècles ?
À mon sens, c'est vraiment l'écho que ce mythe fait chacun de nous. On trouve tout dans ce mythe, effectivement. La dualité, la trahison, l'amour, la question de l'identité, du père, de la reconnaissance. On trouve absolument tout dans ce mythe. Alors après, il a pris des chemins détournés. C'est vrai que souvent, on s'arrête aux figures de Morgane, d'Arthur, de Lancelot, ceux qu'on cite. Souvent, on ne retient que l'amour courtois ou ce que le 19e a fait du mythe arthurien, parce qu'il y a eu quand même des creux dans ces réécritures. Et le mythe arthurien a été surtout repris au 19e avec le romantisme et au 20e avec une partie de la fantaisie et de ou certains romans de vulgarisation en fait. Et voilà, donc c'est vraiment cet écho. On retrouve absolument tout le côté terrestre avec Gauvin. Qu'on a tous le côté céleste, spirituel, avec Lancelot, l'échec. On a vraiment toutes les grandes questions, tous les grands questionnements dans ce mythe réunis dans tous les personnages.
Je suis absolument d'accord, évidemment. Je crois qu'il y a aussi une autre notion qui est totalement essentielle, surtout aujourd'hui et surtout par rapport au thème général d'ici, c'est ce passage permanent entre le monde des humains et ce qu'on appelle l'autre monde. On est toujours sur cette frange absolument incertaine, on ne sait pas, et souvent le chevalier en quête lui-même ne sait pas de quel côté, dans quelle réalité il est, s'il a franchi le seuil ou pas. Et ça, je crois que c'est très nécessaire pour nous sortir justement de notre condition qui est peut-être humaine et un peu fermée. Là, on sort sur autre chose.
Comment on l'interprète, ce passage? C'est en termes de symbolique, est-ce que c'est juste un échappatoire par rapport à la réalité, ou est-ce qu'il a une charge symbolique forte?
Je crois qu'au départ, il y a une réalité qui est mythique et qui est pratiquement religieuse. C'est la part de l'héritage celtique de la légende arthurienne, part qui est indispensable, qui est majeure, qu'il ne faut pas non plus, il ne faut pas non plus oublier les autres teintes que va prendre la légende arthurienne dans sa formation et dans sa transformation. Mais je pense que d'abord, elle est consubstantielle, cette partie de l'autre monde, et ensuite, elle devient évidemment un procédé aussi très, très facile pour les auteurs, et pour nous, elle devient effectivement symboliquement ce que peut-être on peut envisager de plus que le quotidien, que notre quotidien. Échappatoire, oui, bien sûr.
On va se demander maintenant comment, puisqu'on a posé un petit peu les bases du mythe, comment est-ce qu'on travaille à partir de ce mythe aujourd'hui. Fabien, pour écrire L'apprenti de Merlin, comment tu as fait? Tu t'es documenté, tu es revenu au premier texte ou comment?
Oui, effectivement. Mon but, c'était d'abord de revenir au texte. C'est-à-dire que j'ai pas lu d'abord Chrétien de Troyes, puisque je le connaissais un petit peu. Je suis revenu à des textes plutôt anonymes, ceux en gros qui sont réunis sous l'histoire du Graal, dans l'édition de la Pléiade en 3 volumes, des compilations qui ont été faites, de tas de textes qui sont plus ou moins, enfin qui sont assez hétéroclites, qui parlent de différents aspects de la légende, pour m'imprégner de tout ça et de le retravailler à partir de ces bases, tout en m'intéressant aussi, une fois que j'avais décidé de ce que j'allais faire, de regarder un petit peu les réinterprétations modernes. Et c'est vrai que moi, les choses que j'ai gardées parmi les réinterprétations modernes, c'est il y a deux choses. C'est d'une part l'époque arthurienne comme une époque de transition. C'est-à-dire que, en gros, si jamais il y a un modèle historique à Arthur, c'est à peu près au 5e siècle que ça se passe. En gros, hein, je parle sous votre contrôle. Et c'est la fin de l'Antiquité. Donc moi, je l'ai vu comme la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Une époque vraiment de transition, sachant que moi, ma spécialité, c'est l'Antiquité. Et du coup, c'est ça qui m'intéressait, comment passer petit à petit au Moyen-Âge. Et ce moment de transition, qui a d'ailleurs été revu dans des films, ça on le voit dans Camelot, où on voit le départ des Romains. On l'a dans le film Arthur, qui les montrait comme des soldats romains. Donc j'ai réutilisé cet aspect qui m'intéressait, moi, d'un point de vue personnel. Et la deuxième chose, c'est de voir comment la table ronde se constitue comme une utopie. Et c'est là qu'on rejoint l'idée d'un mythe politique, c'est comment le roi Arthur essaye de constituer une espèce de gouvernement idéal, avec cette histoire de table ronde, d'égalité entre les chevaliers... Et moi, je suis parti de là. C'est-à-dire que dans le cycle L'apprenti de Merlin, c'est aussi de montrer que c'est un moment qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est anhistorique. Ils essayent en gros, ils vont essayer de mettre en place une utopie. Ils vont échouer, ça c'est sûr, dès le début. Ce qui leur permet d'ailleurs au départ, en réussissant cette utopie, de lancer certains idéaux du Moyen-Âge. Et comme ils vont échouer, ça va être oublié, ce sera récupéré plus tard. Donc c'est vraiment cet aspect utopie où on retrouve évidemment plein de thèmes dont on a parlé avant, d'organisation de la société, comment un homme essaye autour de lui d'organiser le gouvernement d'un pays, et ça rejoint un troisième aspect qui est celui d'une forme de pacifisme, dont le thème je l'ai trouvé dans les romans de T.H. White, Merlin l'Enchanteur, ceux qui ont inspiré le Disney, Et qui sont assez proches, mis à part qu'il y a effectivement un véritable discours pacifiste, puisque c'est au moment de la Deuxième Guerre mondiale, si je ne m'abuse. Et donc, c'est comment arrêter la guerre dans un pays en proposant un gouvernement idéal. Voilà.
Même question pour toi, Anne. Comment, puisque, sans tout dévoiler, mais évidemment, le clairvoyage y fait allusion, comment est-ce que tu as travaillé à partir du mythe ?
Alors, c'est pas tant le clairvoyage qui fait allusion, c'est vraiment cette nouvelle qui a été un vrai passage pour moi, parce que j'étais incapable avant d'écrire sur les chevaliers de la table ronde, j'étais trop proche, et de l'étude universitaire, mais aussi d'un point de vue affectif, j'avais beaucoup de mal à passer. Et là, j'ai réussi. Finalement, je ne me suis pas intéressée aux personnages principaux, pas du tout ce qui m'intéressait, savoir si Morgane est finalement une nécromancienne, une fée, si elle est bonne, mauvaise, si elle a été christianisée, pas christianisée. Je me suis intéressée à un et du coup c'est beaucoup plus facile, à un personnage qu'on n'a jamais utilisé, dans le mythe d'origine vraiment, c'est Kay, que le frère d'Arthur. Et alors, moi, mon truc, c'est vraiment le XIIIe siècle, hein, donc le moment où le mythe a été christianisé vraiment, à la suite de Chrétien de Troyes, avec, bon, après, la part de légende qu'il y a autour d'Aliénor d'Aquitaine, la façon dont on a inscrit, d'un point de vue historique, le mythe à la cour d'Aliénor, donc en passant par le Brut de Weiss, après Chrétien de Troyes avec sa fille Marie de Champagne, etc. Et donc... Ce qui m'intéressait, c'était de réécrire à partir du XIIIe siècle. Donc, effectivement, la datation, c'est le Ve siècle, mais de partir vraiment du XIIIe et de la Vulgate. Alors, Queux est un personnage particulier parce qu'il est mauvais, il est jaloux, il est envieux, c'est le sénéchal d'Arthur. C'est un personnage qui est vraiment peu mis en valeur dans Chrétien de Troyes, quasiment inexistant dans la Vulgate. Il n'est là que pour railler. Ma façon de le moderniser, c'était de prendre l'angle psychologique. Pourquoi est-ce que cet homme, finalement, est devenu aussi mauvais, envieux, etc. Certainement pas à cause de l'inné, mais bien de son histoire. Il est chevalier, il devient sénéchal, il est derrière des comptes, au lieu de partir en aventure avec Arthur. Et j'ai relié ça avec le côté plus matière de Bretagne, En mettant un élément complètement merveilleux qui est une sorte de vouivre. Voilà, donc sénéchal qui part régler un problème de terre, de compte, voilà, de dîme qui ne vient pas et qui se retrouve face à un élément merveilleux.
Claudine Glo, vous vouliez réagir?
Non, je trouvais ça, oui, très intéressant, ce personnage de Queux aussi. Et ce personnage qui est quand même le double du roi Arthur, mais le double raté du roi Arthur.
Bah, il a été retiré du sein de sa mère pour qu'Arthur puisse être allaité. Donc il est vraiment c'est le mauvais fils d'ailleurs que Cain. Moi j'ai joué un petit peu là-dessus. C'est le mauvais fils et en même temps bon qui vit dans l'ombre tout le temps.
Et son père d'ailleurs, Antor, le confie au roi Arthur en lui disant il n'a pas eu ses chances à cause de toi. Tu ne dois jamais le lâcher.
Exactement.
Tu dois l'accompagner quoi qu'il fasse. Sois solidaire de celui dont tu as privé sa mère. Tu l'as privé de sa mère. Ne le laisse jamais de côté. C'est assez émouvant, ça, ce moment-là.
Oui, surtout qu'on peut imaginer que sans Arthur, que finalement aurait été un vavasseur, sans doute tout à fait honnête, avec ses terres.
Limité, un peu limité, un peu, oui.
Voilà, il n'aurait pas retrouvé raillé, parce qu'il est raillé aussi par les chevaliers, évidemment. Il passe son temps à faire à se moquer, donc on lui répond. Donc c'est un personnage qui m'a intéressé, voilà, qui est dans l'ombre.
D'accord, donc un personnage parmi le mythe, quoi.
Bah oui, on pourrait d'ailleurs, c'est en projet, on pourrait travailler sur tous ces chevaliers oubliés, les chevaliers qui passent, Bonne-Magu, le roi Bonne-Magu par exemple, certains frères de Gauvin à Gravin. Enfin, il y a plein de personnages comme ça. Il y a quand même 40 des chevaliers de la Table Ronde, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a plein de personnages comme ça qui passent, dont on n'a pas écrit ce qu'on appelle les embranchements, c'est-à-dire les aventures, et qui restent intéressants parce qu'ils se retrouvent à des points de connexion avec les autres chevaliers. Et voilà, c'est ce qui m'a intéressé le plus finalement.
Une question pour toi, Alexis, si vous voulez passer le micro. À partir donc. Toi, c'est la partie plus dessin, illustration, graphisme.
Ouais, ouais.
Comment est-ce que tu as construit ce graphisme-là et à partir de quoi on commençait à en discuter un petit peu derrière. Mais à partir du moment où on t'a dit tu vas travailler sur la table ronde, où tu l'as décidé, comment t'as fait?
Bah, je vais reprendre aussi propos tout à l'heure. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais ça va peut-être me permettre justement de parler de ça. On a pas mal évoqué le nom d'interprétation, qui à mon sens en fait est relativement proche du travail d'illustration. Quelque part, voilà, on a un propos, un sujet, un texte, on doit lui donner corps visuellement. Par rapport à... Donc moi, concernant le mythe arthurien, mon plus gros travail, ça a été autour du livre illustré Merlin. Le truc intéressant, c'est qu'on a les grandes lignes, c'est conserver l'essence, ou en tout cas sélectionner ou choisir ce qui est le plus intéressant dans le personnage. Et nous, disons que sur le livre, ça me fait rebondir aussi sur un point qu'on a évoqué avant, le fait que, voilà, que ce soit quelque chose qui soit ancré dans l'histoire, relativement vieux, mais flou. Je dirais qu'on a essayé en fait de lui, nous, de créer une incarnation qui soit actuelle, tout en restant respectueuse en fait du matériau original, de l'essence même du personnage. Donc on a un petit peu rué dans les brancards. Donc là, je parle pas seulement visuellement, mais au niveau du mythe lui-même de Merlin, on a revu certaines choses sans trop s'éloigner de l'essence même. Et au niveau de l'iconographie, ce qu'on s'était dit, nous, c'était... Enfin, moi, je me positionne, on va dire, comme un spectateur actuel, moderne. J'ai vu Le Seigneur des Anneaux. Je vois ce qui se fait au cinéma à l'heure actuelle, je vois ce qui se fait aussi en illustration, envie en fait de repousser les standards et de jongler sur ce sujet-là, mais de lui amener, enfin comment dire, un vernis qui soit à la hauteur du Seigneur des Anneaux, tout le travail qu'ils ont fait dans la conception des armures, recréer une mythologie. Donc c'est un espèce de mélange aussi pareil. Disons qu'en tant qu'illustrateur aussi, j'ai une grosse base en fantasy, donc heroic fantasy, c'est comment le terme en français, c'est fantastique héroïque, c'est un petit peu...
Fantasy
médiévale,
médiévale fantastique. Allez.
Donc on jongle toujours avec des paramètres entre guillemets historiques et on s'éloigne, on rajoute des dragons, mais on parle toujours, il y a toujours, comme dire, à la base très souvent le chevalier, enfin l'image classique, on va dire. Donc idem pour Merlin, on a essayé de jongler avec l'essentiel et de rajouter en fait des petites plus-values, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une approche entièrement historique. On est allé creuser un petit peu tout ça au niveau de l'iconographie, la symbolique surtout. On a développé pas mal de choses autour de l'arbre de vie, le rapport à la terre. Et encore une fois, voilà, on ne s'est pas dit on veut faire des armures extrêmement réalistes ou telles qu'elles étaient au XIIIe siècle ou au XVe. On a pris énormément de distance avec ça. Et là, tu vois, je citerai justement Cronenberg qui parlait de l'adaptation, ou lui, ce qu'il a fait justement par exemple, avec Le Festin Nu, le roman inadaptable là, de Burroughs. Comment dire, parfois les meilleures adaptations, c'est quand tu prends de la distance avec ton sujet de base et tu te permets de rajouter ta propre personnalité, on va dire, ta propre vision dessus. Juste pour parler justement de la mise au goût du jour, une approche plus moderne par rapport à Merlin, au tout début du projet, on s'est posé la question, moi et Jean-Sébastien Rosbach, votre illustrateur, justement, à qui pourrait ressembler. Et donc on s'est fait un casting virtuel, un petit plaisir, voilà, autour d'une table, à parler de différents personnages de fiction ou réel. Donc voilà, on est passé de Wolverine, ça c'est peut-être mes références, on va dire comics ou pas mal de grosses influences, à des personnages plus classiques, des acteurs également. Et finalement, on s'est rapproché en fait de l'idée de Rockstar autour de avec David Bowie. On est passé par également Iggy Pop, Liguan pour sa gestuelle, le charisme sur scène, et de David Bowie. En fait, ce qu'on a retenu justement, c'est le côté polymorphe. Claudine pourra en parler mieux que moi, justement, le côté, changeant, en fait, de Merlin, le côté, s'adapter. Donc, il correspond un petit peu à David Bowie, dans le sens où, tout ce qu'il a fait, on pourrait le taxer d'opportuniste. Mais c'est peut-être aussi une marque de curiosité permanente, en fait, de renouvellement, le fait d'être éclectique, qu'il ait surfé à chaque fois sur les courants tendances. Donc voilà, ça alimentait le personnage, ça nous permet de créer une connexion. Et voilà, juste au niveau du physique aussi, ce qu'on a retenu, c'est les yeux verrons. Pareil, qu'on a essayé d'exploiter un petit peu plus loin et de creuser. Pour moi, c'était un œil en fait enchâssé dans la terre par rapport aux racines, à la forêt. Un autre en fait qui voit plus loin, donc rapport au ciel, la mer qui a envie de s'éloigner. Et ça faisait résonance en fait avec l'histoire du bouquin. Avec Merlin, là justement, on lui a greffé sa sœur jumelle Viviane. Viviane qui reste à Avalon et lui qui s'éloigne. Et comment dire, toutes les pièces se réimbriquaient à nouveau, mais voilà, c'est essayer de trouver du sens dans des références, on va dire, plus modernes.
T'as dit quelque chose qui était important, c'est-à-dire que tu as dit que vous aviez besoin Cronenberg a besoin de distance par rapport au mythe pour mieux le réinterpréter. Mesdames et messieurs l'auteur, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ça? Il faut avoir de la distance pour pouvoir écrire sur le mythe arthurien. Qui veut répondre? Claudine, Anne, Fabien?
Moi, je veux bien répondre. Enfin, moi, la façon dont j'ai procédé, en fait, c'était effectivement donc de tout relire pour me mettre dans l'ambiance, repérer des motifs au niveau de la narration, même des idées, et ensuite de les réinterpréter, sachant que moi, je m'étais donné une contrainte, c'est-à-dire que c'est le point de vue que j'ai choisi. J'ai choisi de rester sur un personnage, donc en point de vue interne. Et donc il fallait que tout tourne autour de l'apprenti de Merlin qui est dans le titre. J'ai tout réinterprété à partir de cette figure. Il y a des personnages qui ont fusionné, d'autres qui ont changé. Par exemple, la Dame du Lac, c'est devenu la Fée Morgue, alors que c'est Viviane, normalement, la Dame du Lac. Mais ça ne m'arrangeait pas pour mon histoire, et puis je trouvais ça plus intéressant. Donc j'ai déplacé ce genre de choses. Sachant qu'il y a quand même des similitudes entre les deux personnages, donc on peut les changer comme ça. Donc c'est ce genre d'opération. Donc si c'est ça qu'on appelle prise de distance, c'est une manière de faire. De toute façon, on peut pas, sinon on refait les histoires qui ont déjà été écrites.
Puis après, encore une fois, je rajouterais qu'on est tous différents en termes de personnalité, voilà, de travail d'artiste, auteur, quoi que ce soit, et on peut être entre guillemets plus ou moins avoir une volonté de rester plus ou moins proche de la réalité entre guillemets historique, ou alors s'en distancier et créer quelque chose d'encore plus différent.
Anne, tu veux ajouter quelque chose?
Oui, alors la distance, oui, moi j'ai besoin d'une distance affective parce que c'était vraiment une passion et c'est toujours une passion. En revanche, la distance d'un point de vue purement littéraire est assez facile à trouver parce que dans les romans d'origine, il n'y a aucune interprétation. Donc il y a vraiment des épisodes, des faits, on n'est pas du tout dans une écriture psychologique, voilà, il n'y a pas d'interprétation, donc cette distance on peut l'avoir, et du coup on peut faire des combinaisons, imaginer. Il y a aussi beaucoup d'ellipses, finalement, pour voulu ou non, pour des raisons de parties manquantes, mais aussi parfois de l'auteur ou des auteurs, parce qu'on ne sait pas s'il y a un auteur ou des auteurs, des choix d'auteurs, donc elle se met en place assez facilement, cette distance. On peut interpréter, on peut aller au-delà, on peut...
Et je trouve qu'en combinant de la sorte, on ne fait jamais que suivre ce qui s'est fait, ce qu'ont fait les auteurs, disons, entre le 12e et le 16e, et puis je ne parle même pas des réécritures 19e, 20e, mais ça a toujours été ça. On prenait ce qu'on voulait, on transformait. C'est jamais raccord, comme on dirait au cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un pour dire, oh là là, attention, ce personnage-là, il était le neveu du roi et maintenant il est devenu le cousin. On va créer des personnages supplémentaires, on va rajouter des enfances, on va rajouter des branches latérales. Donc, on a, là, de ce côté-là, on a toute liberté. Tu parlais là de la psychologisation. Il y en a quand même une chez Chrétien de Troyes, mais on peut suivre ça ou pas. Non, je vous connais une très grande liberté. Pour moi, la distance a plutôt été dans le temps. C'est-à-dire qu'il fallait d'abord digérer les choses. Et le morceau est quand même assez énorme à attaquer. Donc, moi, il m'a fallu plutôt du temps. Pendant très longtemps, j'ai écrit sur. C'est-à-dire que c'était des essais ou c'était des petits ou plus grands travaux de vulgarisation, mais travaillant la thématique, travaillant, donnant à savoir quelque chose, enfin essayant du moins, de donner à savoir quelque chose. Mais rentrer dans un texte s'apparentant au travail qu'avaient pu faire les romanciers, les grands ancêtres, ça a été très long et je n'ai pu le faire. D'ailleurs, que je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait à deux, puisqu'il y a mon co-auteur là qui se recroqueville dans son siège, donc Marnagès, on s'est mis à deux pour ça. Il m'avait vraiment fallu beaucoup, beaucoup de temps. J'avais l'impression que plus j'étudiais la matière, plus j'allais avoir du mal à un jour l'attaquer comme une fiction, comme un travail d'auteur.
Alors justement, comment est-ce que vous avez fait pour écrire vos romans? On n'en a pas encore parlé. Quel visage vous avez donné à Smith-là?
Alors, vous parliez des textes. Moi aussi, nous avions cette envie de rester très proche des textes. Mais lesquels, après? Parce que Dieu sait qu'il y a quand même un choix assez important. Alors d'abord, nous avions l'ambition, il faut en avoir quelquefois, pas être trop modeste. On s'est dit, ça va être pour le 21e siècle, ça va être la première somme en langue française. Au 20e, on a eu celle de l'anglais. On a d'abord eu celle de Boulanger, sur laquelle on a tous fonctionné. Il y a eu celle de l'anglais. Et il y a eu l'assemblage de Jean Marcal aussi, sur les 8 volumes de chez Pygmalion. Donc, mais tout ça était quand même resté, enfin je parle surtout de l'anglais et de Boulanger, était resté très proche de la Vulgate, de cet ensemble de romans qu'on appelle la Vulgate et qui est l'histoire qu'on connaît bien, de l'histoire du Graal, celle de Merlin, celle de la quête du Graal et de la mort du roi Arthur. où le plus gros roman central est consacré à Lancelot. Donc on était toujours, on fonctionne toujours là-dessus, et les Anglais eux-mêmes, avec l'adaptation qu'en a fait Mallory au XVe siècle, sont encore plus centrés là-dessus. Ce qui fait qu'on a une espèce d'effet d'entonnoir, la matière qui est si vaste s'est peu à peu resserrée dans cette seule version. Et cette version m'ennuyait un petit peu, dans la mesure où c'est pas tellement qu'elle soit très christianisée, il faut pas rêver, la légende arthurienne, dès son écriture, est chrétienne. Après, on trouve les plus ou moins empreinte de la matière celtique précédente, mais elle est écrite par des gens qui sont chrétiens dans une époque où tout le monde est chrétien. Donc là, c'est pas la peine d'aller chercher non plus des choses très très complexes. Trouvons plutôt ce qu'elle nous livre à travers cette forme-là. Et ce que je trouvais dommage, c'est que on travaillait sur la partie ces textes-là très chrétiens qui se voulaient historiques, parce que revenons sur l'historicité. Pour moi, l'historicité dans la légende arthurienne est quasiment un non-sens. On peut toujours parler d'historique. Est historique l'époque à laquelle on écrit? Après, on a les fantasmes ou les ambitions politiques de quelques-uns, notamment de la royauté anglaise, qui a absolument besoin de dire « le roi Arthur est vrai, c'est notre ancêtre ». Mais si on travaille historiquement parlant aujourd'hui, en voyant ce qu'exige l'histoire, on ne trouve pas de roi Arthur. On est tous à parler du 5e siècle, mais au bout du compte, on a 3-4 mentions et qui sont écrites au 9e siècle. Donc, ça, c'était la partie qui m'ennuie un petit peu. Cette partie de, disons, la Vulgate, tout ça, toute cette histoire-là, c'est vrai. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'on l'a écrite en prose. Et la prose, au Moyen-Âge, c'est ce qui dit la vérité, contrairement aux vers qui, eux, disent la fantaisie, disent l'irréel, disent la vanité, c'est-à-dire la vacuité. Et moi, ce qui m'intéressait, et Marc aussi, c'était les romans en vers. Et c'était le personnage, non pas le personnage central, bien sûr, Arthur au départ, Arthur et Merlin, ensuite Lancelot, mais le dernier personnage, puisque nous avons travaillé une trilogie, le dernier personnage étant le quêteur du Graal, celui qui allait devenir le roi du Graal. Et ce Galahad qu'on nous a fabriqué au XIIIe siècle et qui a une inexistence, qui est une espèce de truc transparent et complètement... je vous dis, oui, fabriqué de toutes pièces et qui est une arme de guerre idéologique, eh bien, ne m'intéressait vraiment pas du tout. Alors que, très clairement, le Comte du Graal, qui est quand même quelque chose d'assez génial, même si c'est pas fini, quelque chose d'assez génial, nous avance Perceval comme héros. Wolfram d'Eschenbach, dans le même temps en Allemagne, écrit Parsifal, où là encore, on voit Parsifal devenir le roi du Graal. Il y a 4 continuations de ce Comte du Graal, où on voit encore Perceval encore et encore avancer et devenir... roi du Graal, et on a autour de ça une myriade de romans, ce qu'on appelle épisodiques, parce qu'ils racontent chacun qu'un épisode de l'histoire, qui sont des romans en prose et qui chacun sont des aventures merveilleuses. Et nous avions envie de rester dans ce registre-là. Donc c'est comme ça qu'on a construit, avec évidemment le crève-cœur, qu'est-ce qu'on va garder? Donc on va en garder quoi? 1/10, 1/5, non, 1/50 et encore. Mais essayer de garder la vraie cohérence, en fait, et la cohérence merveilleuse, plus que tout le reste.
Vous avez tous les quatre beaucoup travaillé avant d'écrire vos histoires ou de faire vos dessins. Ce travail de documentation, ou tout du moins cette connaissance du mythe, elle était obligatoire? Vous aviez peur de trahir le personnage ou les personnages? Qui veut répondre?
Bon, je ne sais pas, juste du point de vue visuel, en fait, un tout petit point... Je pense que la documentation, elle est essentielle, en fait, quel que soit le sujet traité, pour faire quelque chose qui soit correct, on va dire, où là, on n'est pas dans un rapport, on va dire, d'illustration ou de peinture abstraite. Il y a un propos à illustrer, il y a que ce soit des environnements, des décors. Et je repense à ce que m'avait sorti une amie il y a très très longtemps, en fait, le fait de... c'est toujours bien, en fait, d'ingurgiter un maximum de documentation et ensuite de la mettre de côté une fois qu'elle a fait son chemin, pour en ressortir, en fait, quelque chose qui ait plus de personnalité et, en gros, quelque chose qui passe par le prisme de... ouais, de soi-même, en fait, où voilà, on avait le matériau de base, tous les référents, toute la documentation, et on va en ressortir quelque chose de relativement proche, mais avec une plus-value. Enfin, il me semble que c'est peut-être le même processus en écriture, le fait, voilà, de fondre les pièces et de proposer quelque chose de neuf à l'arrivée, en restant, comment dire, avec tout ce travail de documentation, de véracité quelque part en amont.
Anne, tu voulais...
Oui, l'interprétation est assez libre, comme je disais tout à l'heure. Et je crois que le mythe est assez fort pour qu'on n'arrive pas vraiment à le trahir. Je pense à John Boorman qui a très très bien exploité le personnage de Lancelot, qui a fait un Lancelot absolument parfait et qui a été capable de dire, ce qui pour moi est une aberration, qui a dit « À notre époque, Lancelot aurait été un nazi ». Donc Ouais, je crois que de toute façon, à partir du moment où, comme le disait Claudine, il a été remodelé au fil des siècles avec plusieurs versions par plusieurs clercs puis plusieurs auteurs, on peut difficilement trahir les personnages en général et le mythe lui-même.
Il nous reste une petite dizaine de minutes, c'est un thème très très riche, hein. On a encore plein de questions et peut-être que vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un souhaite en poser? Vous allez voir. Monsieur.
Bonsoir. Donc bien sûr on a parlé de littérature, d'historicité, pseudo-historicité, mais en fait ne croyez-vous pas qu'il y a quand même quelque chose de concret à la toute source de ces récits?
Je vais me permettre très rapidement, le mythe n'est pas concret, mais il est vrai. Je veux dire, dans la mesure où il est l'expression d'un groupe humain, la façon dont il se relie au monde, dont il construit sa relation au monde, dont il met en place peut-être sa relation au divin aussi, parce que ça reste, l'homme est religieux. Moi, je suis persuadée de ce que disait Eliade, l'homme est religieux. Et bien, à partir de cela, c'est vrai. C'est-à-dire qu'une religion est vraie, même si elle ne laisse pas de monument. Vous voyez, le concret et le vrai ne sont pas la même chose.
Enfin, moi, quand je parlais de concret, je parlais d'archéologie. Ben d'archéologie, oui. De l'imaginaire, parce qu'en fait, ça n'a jamais été fait. Et en fait, je pense qu'il y a une archéologie des visions à faire, et il y a un vaste chantier qui n'a jamais été mené.
Alors, le côté historique au XIIIe siècle s'exprime...
Archéologie.
Oui, alors moi je reviens sur le côté historique. Au XIIIe siècle s'exprime simplement sur de la technicité littéraire, c'est-à-dire que pour donner une impression de véracité, on écrit le roman comme des chroniques. Pour inscrire. Donc il y a aussi, ce côté, le fait de dire que c'est historique, ou c'est, ça vient aussi de la technique.
Oui, mais je pense que... Enfin, il y a des visions, et je pense que ces visions ne sont... viennent de quelque part. Il y a un objet quelque part qui est un support de vision et qui fait qu'il y a une sorte de joute poétique à partir de cet objet archéologique qui est un support de vision et que chacun interprète à sa façon. De même qu'il y a l'Apocalypse et en plus la figure d'Arthur est une figure christique, messianique. Donc nous sommes complètement en connexion avec un imaginaire chrétien, et il y a sûrement quelque chose derrière d'archéologique, puisque je pense que les noms ont un sens et les noms jouent. Vous prenez Guenièvre, il y a plein d'étymologies possibles, mais il y en a une très simple: Guenbara, le pain et le vin, et on retrouve le Christ, Guenvar.
Mais vous avez raison, mais on peut parler du mythe et de la force d'un mythe, c'est justement ces lectures, et puis toutes se fondent. Pourquoi elles se fondent toutes? Parce que nous les passons tous au crible de nos croyances. Je vous renverrai aux travaux de Jacques Ribard, qui a écrit du filtre au Graal, qui a tout basé son travail, qui est un grand universitaire profondément catholique, et qui a basé tout son travail sur une lecture... comme vous disiez, christique, messianique, lisant au travers de la messe, ou au travers du sacrifice de la messe, la légende arthurienne. Je ne dirais pas que mes convictions sont là, mais son travail est tout à fait convaincant. Ouais. Ceci dit, d'autres travaux peuvent être tout à fait convaincants, et c'est ça qui est passionnant dans la légende arthurienne.
Je vais vous donner une clé, parce qu'on parlait de que. Enfin, que, normalement, c'est le cercle en breton, que gagne d'ailleurs, le cercle vide. Par rapport à où passe... où passe en fait l'univers par ce cercle vide qui arrive au merveilleux Kogan. La clé, c'est aussi une clé, c'est un cercle, et là-haut c'est un cercle. Et en fait, par exemple, on a souvent fait des relations entre le Graal et le Saint-Cyr de Turin. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non. Eh bien, par exemple, vous prenez le visage du Saint-Cyr de Turin, avec le sang, vous le retournez. Comme une coupe. Rappelez-vous le premier épisode du conte du Graal, la coupe renversée. Hop, et vous voyez une coupe de sang faite par le sang du Christ. Hop, vous voyez après, par rapport à une sorte de cercle, enfin, il y avait un reliquaire qui avait une ouverture centrale circulaire, et vous voyez autour de la tête comme un plateau, et se détache une tête comme coupée. Et nous avons le cortège du Graal, de Galois, avec la tête coupée. Et puis vous prenez toutes les visions, et en fait, nous avons le support des visions de la légende arthurienne. Elle est là. Pourquoi aller chercher? Pourquoi pas se travailler à partir de l'archéologie?
Mais finalement, on s'en fiche un peu de savoir d'où ça vient quand même. Enfin, moi personnellement.
Bon, bah d'accord. Bah alors,
je vais vous dire.
L'archéologie, au revoir.
Bah non, mais l'archéologie, on trouvera rien. Il y en a pas.
Je suis désolé. Moi, je peux vous le faire.
Juste, vous voulez une réponse ou pas?
Non, mais attendez. Oui. Vous dites que vous fichez l'archéologie. Je suis archéocryptologue.
Mais je peux vous expliquer l'archéologie. Je peux vous expliquer comment je le vois. Moi, j'ai traité ça.
Merci de respecter aussi les autres points de vue.
Oui,
ne vous fichez pas d'archéologie.
On va laisser. On va laisser.
Ne vous fichez pas d'archéologie parce que moi, j'ai fiché de la littérature, puis ça va être nul.
C'est très bien pour vous, mais je vous explique juste, parce que c'est un mythe, effectivement, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, c'est comme le mythe de la guerre de Troie, on peut faire de l'archéologie, on peut retrouver Troie, c'est pas ça qui nous dira comment le récit s'est constitué, mais ça c'est votre point de vue, je vous explique le mien. L'idée c'est quand même que finalement cela a peu d'importance. Ce qui est important c'est qu'on a trouvé, moi je parle d'un point de vue littéraire, on a trouvé une forme de récit qui, à travers les âges, quelles que soient les références culturelles qu'on peut avoir, va toucher les gens d'une façon universelle. Donc, on peut vous trouver des symboles chrétiens avant. Si on regarde, par exemple, il y a aussi une réinterprétation constante. Je vous remercie d'écouter ce que je vous dis. On peut avoir aussi une réinterprétation constante des mythes qu'on retrouve. Si on prend, par exemple, Tristan et Iseut, parce qu'il y a une porosité entre les mythes. On reprend Tristan et Iseut, parce que c'est l'exemple que je connais. L'histoire des voiles noires, c'est quand même pompé sur l'histoire de Thésée. Donc, partir de là en disant qu'il y a des symboles chrétiens, on pourrait faire une archéologie des mythes présents. Là, je ne suis pas capable de le faire, je n'ai pas les connaissances nécessaires. On pourrait faire une archéologie de ces mythes littéraires qu'on pourrait retrouver tout à fait dans les mythes antiques, c'est-à-dire à un moment où Jésus n'existe pas. Je suis désolé de le dire. Et moi, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Et c'est cette transmission qu'on peut avoir. Voilà.
C'était pas un journaliste de Groland, non?
Non, peut-être. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ouais, vous pouvez, ouais. Il nous reste 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Allez-y. Monsieur.
Alors, il y a une interview d'Alexandre Astier où il a déclaré que tous les siècles, au fur et à mesure du temps, comme vous l'avez dit, il y a eu des chroniqueurs arthuriens qui ont apporté leur vision du mythe. Il a dit, moi, maintenant, au XXIe siècle, je suis un chroniqueur arthurien. Est-ce que vous partagez cette vision-là? Est-ce que vous êtes les chroniqueurs arthuriens du XXIe siècle vers lesquels les gens du futur vont se tourner en se disant, ah, ceux-là aussi, ils font partie de la tradition?
Mais on le souhaite vivement, ça c'est une évidence. Bon, Astier a raison, il est tout à fait un de ses chroniqueurs, il a un ton nouveau et au moins les premières saisons nous ont, je crois, quand même assez enchantés. Il y a eu quand même à travers les siècles quelques creux, le 17e, 18e n'ont peut-être pas été les périodes les plus fastes pour la légende arthurienne. Mais oui, bah, bien sûr qu'on a, je sais pas, c'est pas une ambition, mais on espère quand même qu'on va marquer dans une toute petite pierre, mais sans trop d'illusions, le 21e siècle ne fait que commencer. Nous sommes bien incapables de dire combien d'arthuriens viendront derrière nous apporter leur brique à l'édifice. Moi, j'espère qu'ils seront nombreux. Parce que une des choses auxquelles je tiens essentiellement, c'est que cette légende continue à vivre et à enchanter et à faire créer. Parce qu'on n'a pas toujours souligné ça, mais c'est sa puissance créatrice. Parce qu'on a beaucoup parlé littérature et un petit peu illustration. Mais il faut voir par exemple qu'au Moyen-Âge, l'imagerie arthurienne envahit le quotidien. Ça va être des sculptures, ça va être des tapisseries, ça va être des dalles sur le sol, ça va être des objets de la vie quotidienne. Elle est particulièrement présente et je crois que cette légende au Moyen-Âge, en Europe, parce que c'est quand même, il faut très vite la voir comme une légende européenne, c'est un des grands langages communs de la culture européenne. Parce que vous allez avoir des œuvres arthuriennes traduites en Islande, et vous allez avoir des œuvres arthuriennes traduites au Portugal ou en Italie, traduites, puis adaptées, puis créées. Donc vraiment, c'est imaginez un petit peu aujourd'hui des enfants, vous apprenez un petit Islandais, vous prenez un petit Espagnol, et vous lui parlez par exemple de Dumbledore, eh bien il sait qui c'est. Ils savent tous les deux qui c'est. Eh bien au Moyen-Âge, vous aviez un petit peu ce même phénomène quand on parlait de Gauvin ou de Lancelot, on savait d'un bout à l'autre de l'Europe les références que ça supposait.
Ben, c'était les premiers vrais romans populaires. De toute façon, Chrétien III avait mis avec le roman, c'est-à-dire vraiment l'idée d'un écrit en langue romane, était vraiment dans le populaire, contrairement évidemment à la littérature sacrée, savante, etc. Donc c'est vraiment le premier écrit, là je ne parle pas de légende, je parle d'écrit, Moyen-Âge, premier écrit populaire.
Et on oublie toujours, parce qu'on étudie toujours en lettres, entre autres, la culture de l'élite quand même. Donc à la Renaissance, on dit terminé, là on se moque des vieux romans, Montaigne, ça l'amuse beaucoup, comme au XVIIe, La Fontaine va se moquer de sa femme parce qu'elle a la sottise, roman de chevalerie. Mais on oublie quand même qu'au XVIe siècle, qu'est-ce qui se passe? L'imprimerie. Ces romans vont être imprimés et vont gagner la couche, au moins la bourgeoisie. Et au XVIIe siècle, ils vont se répandre encore sous des formes adaptées avec toute la littérature de colportage. Donc voilà, il y a quand même toute cette postérité aussi, même si on n'est plus dans la création pure, dans le grand moment de la naissance des belles œuvres, quoi.
Eh bien, merci beaucoup. On va remercier nos invités. On est à la fin de l'heure qui nous est impartie. Vous allez pouvoir les retrouver en dédicace et tout de suite, ici, le prix Julien Berlanger. Merci à vous.